Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. L'encre aura à peine eu le temps de sécher, le décret de mise en œuvre des ruptures conventionnelles collectives prévu par la dernière réforme du Code du Travail date du 20 décembre dernier, aussitôt publié, aussitôt utilisé. Hier, la chaîne de prêt-à-porter Pinky présentait aux élus du personnel un projet de 208 suppressions de postes dans le cadre de ce nouveau dispositif, avant, semble-t-il, de l'abandonner. C'est ce qu'on a appris il y a quelques minutes de cela de la bouche des syndicats. Aujourd'hui, c'est le groupe PSA qui s'en est saisi. Le constructeur automobile entend supprimer 2200 emplois cette année, dont 1300 dans le cadre de ces ruptures conventionnelles collectives, les RCC. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'une procédure qui permet aux sociétés de se séparer plus facilement de leurs salariés, puisqu'aucune difficulté économique n'est requise pour la mettre en œuvre. Il suffit d'un accord majoritaire avec les syndicats. Les départs, eux, se font sur la seule base du volontariat. Pour les entreprises, le bénéfice est évident. Les RCC permettent de moduler les effectifs, même quand tout va bien, et sans la lourdeur des plans de sauvegarde de l'emploi, les fameux PSE. Pour les salariés, ça l'est beaucoup moins. Cette flexibilité nouvelle ne sera pas forcément compensée par davantage de droits, mais elle pourrait contribuer à faire baisser le niveau global de conflictualité. Alors, rupture conventionnelle collective vers la fin des plans sociaux, c'est la question dont nous allons discuter ce soir en compagnie de trois invités. Déborah David, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate associée au cabinet Janté, experte auprès des entreprises en matière de restructuration. C'est donc des entreprises que vous conseillez, que vous avez pour clients, pour discuter avec vous. Fabrice Angéhi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes syndicaliste, secrétaire confédéral de la CGT. La CGT qui a fait savoir qu'elle était opposée à ces RCC. Alors, on emploiera peut-être un certain nombre d'acronymes. Je le rappellerai, mais pas systématiquement, RCC pour rupture conventionnelle collective. On peut imaginer que si ce dispositif continue d'exister, cet acronyme-là finira par s'imposer. Troisième invité, Arnaud Mias, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur des universités à l'université Paris-Dauphine, chercheur à l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Alors j'évoquais les cas de Pimki, avec donc ce recours à une rupture conventionnelle collective qui, semble-t-il, serait abandonnée. Hier, les élus de personnel étaient consultés sur le sujet. Les syndicats ont fait savoir qu'ils y étaient plutôt hostiles. Donc, manifestement, ça va être abandonné, mais on attendra peut-être la confirmation officielle de la part de la direction de l'entreprise. Il y a PSA aussi qui s'y intéresse. Il y en a d'autres, hein, manifestement. Le groupe Le Figaro qui va mener une expertise, disons, de ce nouveau dispositif. Est-ce que les uns et les autres, d'abord, vous êtes surpris par la rapidité avec laquelle ce dispositif aujourd'hui semble être adopté par les entreprises, Déborah David?
Bah, c'est vrai qu'on en parle maintenant depuis la fin de l'été, donc maintenant on a eu pas mal de communication de la part du gouvernement aussi sur ces nouveaux outils d'anticipation. Moi, ce qui m'a le plus surpris, effectivement, c'est la position de Pimki. La position de PSA est assez classique finalement, puisque ils ont toujours mis en place des plans de départ volontaires qui ont eu un certain succès. Donc c'est pas surprenant qu'ils adoptent aujourd'hui la rupture conventionnelle collective. En revanche, concernant Pimki, c'est un peu plus surprenant parce que...
Mais est-ce qu'au-delà de ça, on va aller dans le détail, bien entendu, Déborah David, mais par rapport notamment à vos clients, vous sentez qu'il y avait une forte attente d'avoir ce dispositif-là en particulier ?
Il y a une forte attente des entreprises de bénéficier d'outils d'adaptation. Les entreprises ne veulent pas en arriver à subir des difficultés économiques et licencier de façon contrainte pour pouvoir s'adapter, puisque auparavant les ordonnances Macron, vous ne pouviez adapter l'entreprise que en passant par des licenciements pour motifs économiques. Par exemple, lorsque vous décidiez de modifier des compétences, des contrats de travail, eh bien, si vous aviez un refus de la part des salariés de ces nouvelles modifications, eh bien, ça aboutissait immédiatement à un licenciement pour motifs économiques et, si plus de 10 salariés étaient concernés, un plan de sauvegarde de l'emploi. L'idée des ordonnances Macron, c'est de créer des outils d'anticipation pour éviter d'en arriver au licenciement.
Donc des outils qui répondent peut-être suffisamment à un besoin de la part des entreprises, Fabrice Angéhi, pour expliquer qu'elles semblent être si nombreuses, enfin à moins qu'il y ait un effet de loupe aussi médiatique, on ne sait pas, à y recourir.
Si vous permettez, je vais répondre à la première question posée. Vous disiez surpris, moi je dirais choqué. comme l'ensemble de nos concitoyens et de nos auditeurs, voilà, une entreprise en PSA, on va y revenir, qui aujourd'hui dégage plus d'1,5 milliard d'euros de bénéfices, et on va battre un record en 2017, qui a son chiffre donc de vente en progression de plus de 10%, et qui va supprimer 2200 emplois au total, 1300 RCC et puis 900 CPA, c'est des congés, c'est des départs en retraite anticipés. Les CPA, c'est une mesure interne à PSA. Donc oui, choqué dans la mesure où on voit bien, ça montre bien que la loi, les ordonnances travail, leur objectif, c'est pas de créer de l'emploi. Le premier objectif, c'est de faciliter des licenciements, qu'on prenne des licenciements en termes larges, que ce soit rupture, départ, les différentes acceptations qu'on met derrière. Mais je dirais d'autant plus choqué que cette mesure, pour avoir participé aux négociations, elle n'a jamais été discutée avec les organisations syndicales. Elle est arrivée en bout de course. Alors, elle a peut-être été discutée, je vois comme faisant de la tête autour, peut-être avec les conseils des entreprises et des entreprises, et les grands groupes en particulier, on voit que ça touche les grands groupes, et pas les petites et moyennes entreprises. Donc, on voit bien la finalité des ordonnances en la matière. Et il y a un point qui me fait réagir, moi. L'adaptation des entreprises, c'est aussi la montée en compétences, c'est la formation professionnelle, c'est l'apprentissage. C'est vraiment ces questions-là qui sont essentielles pour les entreprises. Et il y avait des ruptures conventionnelles individuelles, les ruptures individuelles, qui connaissent un grand succès. Donc on pouvait se séparer aujourd'hui de salariés sans passer par des PSE et des licenciements économiques, comme dit sous-tendu autour de la table.
Alors n'allons pas trop vite, hein, et l'un et l'autre, hein, Déborah David et Fabrice Angéillot, on a quand même une quarantaine de minutes pour discuter de tous ces sujets, mais ça permet, non, mais ça permet, cela dit, de poser les termes du débat. Mais pour revenir à cette question de la rapidité, peut-être, avec laquelle les entreprises s'approprient ce dispositif, Arnaud Mias, est-ce que c'est quelque chose qui finalement est assez inédit, ou plutôt quelque chose de classique? Je ne sais pas si on peut comparer, par exemple, alors, avec une autre forme de rupture conventionnelle, qui est la rupture conventionnelle individuelle, qui a été créée en 2008. Est-ce que la rapidité avait été la même? Parce que c'est quelque chose qui a rencontré un certain succès. Il y a beaucoup de ruptures conventionnelles.
Et puis qui a été crescendo avec les années aussi. Hein. Disons, pour relativiser l'effet de surprise, je pense que c'est aussi ce dispositif, il s'inscrit dans une grande continuité avec tout un ensemble de dispositifs qui ont été introduits depuis au moins 10 ans, s'il remonte effectivement à la rupture conventionnelle. Mais on peut aussi penser à tous ces dispositifs de politique de l'emploi qui ont été mis en place, qui donnent la part belle à la négociation collective en entreprise depuis les accords de méthode il y a plus de 10 ans, en passant par les accords de mobilité, les accords de sauvegarde de l'emploi, de maintien de l'emploi, pardon. Tout un ensemble de dispositifs qui ont déjà créé un chemin vers en direction d'une plus grande flexibilité dans la gestion de l'emploi dans les entreprises. Et finalement, la surprise est très relative quand on pense que, effectivement, tous ces dispositifs, il y a des entreprises, pas toutes les entreprises, mais il y a des entreprises qui sont suffisamment bien dotées du point de vue des ressources humaines, de l'expertise juridique, pour pouvoir s'emparer de ces dispositifs, pour pouvoir combiner ces différents dispositifs. PSA, c'est pas une entreprise qui découvre des politiques de l'emploi, qui a déjà tout un ensemble de dispositifs qui sont mis en place. Et donc, on peut tabler sur une juxtaposition, sans doute, de dispositifs qui jouent des faits complémentaires, parce que c'est quand même un dispositif qui a introduit aussi une nouveauté par rapport au passé.
Et puis, il faut peut-être aussi faire attention à ce qui pourrait être un effet de loupe médiatique. C'est-à-dire, on n'en est qu'au début, hein, bien entendu, de la prise en compte de ces nouvelles mesures. On verra bien si elles sont plus largement adoptées. Ça, c'est un petit peu trop tôt pour le faire. Mais enfin, en tout cas, ce que je retiens de ce que vous avez dit, Arnaud Mias, c'est que ça s'inscrit dans une continuité. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est RCC, c'est ce qui se fait de mieux, disons, je mets le mieux entre guillemets, parce que c'est un côté un peu, on appréciera ou pas si c'est mieux. Mais en tout cas, en termes de souplesse pour se séparer de salariés, Déborah David.
Alors, déjà, je voudrais revenir sur un point, c'est que l'effet de surprise est tout relatif, parce que c'est vrai que lorsque le gouvernement a lancé les ordonnances, on a créé ce terme qui est effectivement nouveau, rupture conventionnelle collective, mais en réalité, le système existait déjà. C'était des plans de départ volontaires, et les plans de départ volontaires, des entreprises comme PSA les connaissaient parfaitement bien. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu tellement de débat sur la question de savoir si on allait passer par la RCC ou par autre chose.
C'est un système qui est déjà connu. Alors, ça sert à quoi de créer un dispositif qui change de nom ?
Le plan de départ volontaire, ça a été créé par la pratique. Ça correspond à une réalité des entreprises. Ça a été créé par la pratique et ça a été encadré par les juges. Mais ça n'a jamais constitué un dispositif législatif. Ça n'a jamais été intégré dans le Code du travail. La nouveauté des ordonnances, c'est de lui donner un cadre juridique et de sécuriser le système. Pourquoi ? Parce que, par exemple, ce qui n'était pas forcément évident auparavant dans le cadre des plans de départ volontaire, c'est que on peut recourir à une rupture conventionnelle collective, effectivement, sans avoir à justifier de difficultés économiques. Et donc en se détachant des difficultés économiques. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on s'adapte, c'est pas au moment où on a déjà atteint le mur et qu'on a des difficultés et qu'on n'a pas d'autre choix que de licencier des gens. On peut s'adapter à des nouvelles compétences, à des nouveaux métiers, à des nouveautés sur le marché, sans nécessairement avoir à subir cette menace du licenciement.
Donc vous êtes d'accord pour dire que c'est aujourd'hui avec cette rupture conventionnelle collective le dispositif qui offre le plus de flexibilité aux entreprises pour mettre fin à des contrats de travail.
Il y a plusieurs outils.
Répondez-moi oui ou non au moins sur cette question.
C'est un des trois outils prévus dans les ordonnances travail qui permettent d'anticiper effectivement sans procéder à des licenciements.
Fabrice Angéry.
Et vous l'avez bien dit, c'est un outil essentiel au service des entreprises pour flexibiliser l'organisation du travail. Et d'une part, mais juste un second élément, pour précariser aussi le travail. Parce que dans ce dispositif-là, on nous dit, et c'est ce que met en avant PSA dans la négociation, certes, on va faire 2200 suppressions de postes, mais on va embaucher. Seulement, donc, les embauches à côté, c'est... Elles ne sont pas du même niveau. Elles ne sont pas du même niveau de rémunération. Ce sont des contrats en alternance, etc. Donc on est sur une précarisation. Et c'était le cas aussi de Pinky. Donc, alors qu'aujourd'hui, si je prends PSA, vous avez déjà en moyenne plus de 10% de CDD. Selon les ateliers, c'est 50%. Donc on est déjà sur une précarité dans l'entreprise.
Mais j'imagine que si
en fait,
PSA,
il y a un mouvement.
C'est pour dire peut-être qu'on a certains salariés, certains postes qui ne correspondent plus à ce qu'on veut faire. Donc on s'en sépare avec les ruptures conventionnelles collectives. Et d'un autre côté, on a d'autres besoins, mais auxquels ne peuvent pas répondre les salariés qui sont déjà en interne, donc on embauche. Est-ce qu'il n'y a pas une logique du point de vue de l'entreprise, Fabrice Angéry ?
Les embauches, on en a, si je prends PSA, on a donc 1300 ruptures conventionnelles collectives, RCC, et on a 400 postes en production. Donc on voit là-dessus qu'on n'est pas forcé, on n'est pas sur quelque chose qui serait de réadapter, la structuration de l'entreprise, mais on est bien sûr baisser le coût du travail. On est bien sûr baisser le coût du travail de manière à faire remonter l'action de PSA. Elle est là, a été ce que comme je dis au départ. On voit bien que ce sont les grands groupes qui les mettent en avant ces mesures aujourd'hui. On n'est pas sur un outil au service des PME, des TPE, qui sont aujourd'hui les structures qui créent le plus des emplois. Et du reste, tout le monde a mis en garde contre la possibilité, par cette mesure, de viser prioritairement donc les salariés les plus anciens et les seniors, mais qui a dû obliger, et encore faudra voir, le gouvernement à mettre en place un contrôle un peu plus accru de la directe sur quels seront les salariés concernés, quels seront volontaires. On parle de volontariat aujourd'hui à PSA. Pour en avoir discuté avec les délégués syndicaux centraux, on a de plus en plus de difficultés à trouver du vrai volontariat.
La directe, je précise, Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, c'est l'autorité administrative qui sera sollicitée à chaque fois qu'il y aura des RCC pour les valider ou pour ne pas les valider. C'est vrai que ce qui est compliqué dans cette histoire, Arnaud Mias, mais je veux aussi vous poser la question à vous, Déborah David, c'est de comprendre qu'une entreprise qui se porte bien sur le plan économique, puisse être amené à recourir à ces ruptures conventionnelles collectives. Est-ce que là, on est dans un vrai changement important au regard de notre droit classique du travail ?
Oui. Est-ce qu'on peut être surpris Le besoin de flexibilité porté par les directions d'entreprise comme un argument de toutes ces réformes, c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire que ce dispositif-là, peut-être qu'il porte un nom un peu particulier qui le fait ranger du côté des ruptures des contrats de travail, mais c'est aussi un outil de réorganisation pour en continu dans les organisations, dans les entreprises. Il faut avoir aussi en tête que ce mouvement-là, c'est pas ce dispositif-là qui vient le provoquer. C'est aujourd'hui déjà les licenciements pour motifs économiques sont devenus minoritaires comme part des ruptures de CDI. Donc déjà aujourd'hui, finalement, les motifs économiques ne sont plus l'argument, en tout cas juridique, à travers les dispositifs juridiques, l'argument principal de la rupture des CDI. Donc c'est, finalement, ce dispositif-là ne vient pas, encore une fois, introduire une rupture, une rupture dans l'évolution des dispositifs publics et dans la manière dont les entreprises gèrent leur emploi.
Déborah David.
Oui, c'est pas complètement surprenant puisque en réalité, c'est ce qui va distinguer la rupture conventionnelle collective du PSE. Le fait qu'il n'y ait pas de difficultés économiques avérées ou démontrées, etc. C'est ce qui va distinguer les deux systèmes. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on anticipe justement des difficultés économiques et lorsqu'on a la possibilité de s'adapter, eh bien là, on recourt à une rupture conventionnelle collective.
C'est ce que fait PSA aujourd'hui, c'est-à-dire PSA. PSA ah oui, anticipe absolument. Des difficultés économiques.
Mais ou bien... oui, elle s'adapte. PSA s'adapte. PSA.
Mais c'est pas forcément la même chose, opère. C'est-à-dire s'adapter et anticiper des difficultés.
Eh ben, si, c'est un peu ça, parce que quand on est sur un marché concurrentiel, il faut bien
augmente ses ventes 10% et plus d'un milliard cinq de bénéfices sur l'année.
Oui, mais enfin, vous voyez les mesures qui sont proposées dans le cadre de
mais justement, parce qu'il y a de la ressource. Parce qu'il y a de la
ressource. Mais heureusement qu'il y a de la ressource, parce que
sinon, qu'il y a de la valeur produite par le collectif
ça.
De travail.
Ouais. Écoutez, dans le cadre d'un PSE, si PSA devait attendre pour se restructurer ou pour adapter sa population salariée d'aboutir à un PSE, on aboutirait à des licenciements contraints. Donc les salariés visés par le PSE n'auraient pas d'autre choix que de quitter l'entreprise, même s'ils n'ont pas de projet derrière. Alors que la possibilité quand même d'anticiper en amont ces difficultés en permettant aux salariés qui le souhaitent. Je rappelle que la rupture conventionnelle collective, c'est un système, ça ne repose que sur le volontariat. Si vous voulez, il y a trois étapes à franchir avant que les salariés partent de l'entreprise. La première étape, c'est la négociation d'un accord accepté par les syndicats, qui doivent être effectivement majoritaires. La deuxième étape, c'est une validation de la directe, vous l'avez dit, qui va s'assurer que...
Donc l'autorité
L'administration du travail, effectivement, qui va s'assurer que le plan, que l'accord répond bien aux objectifs de la RCC, c'est-à-dire qu'elle soit exclusive de tout licenciement. C'est-à-dire que si, au bout du compte, on n'aboutit pas à l'objectif fixé en termes de suppression de postes, eh bien, on ne licencie pas, contrairement à un plan de départ volontaire qui serait adossé à un plan de sauvegarde de l'emploi.
Et la troisième étape, le volontariat.
C'est le volontariat. Ce ne sont que les salariés qui le souhaitent qui partent avec des mesures d'accompagnement très importante.
C'est vrai que ça fait beaucoup de garde-fous, a priori, Fabrice Angéli. Ils ont peut-être fonctionné, d'ailleurs, avec Kim Pimki. C'est-à-dire que les syndicats majoritaires dans l'entreprise, la CGT et Force Ouvrière, ont exprimé hier très vite, après la réunion, leur opposition à ces ruptures conventionnelles collectives. Résultat, manifestement, Pimki va abandonner cette procédure.
Oui, on peut considérer que c'est une victoire, mais ce n'est pas pour autant un garde-fou lorsqu'on prend dans la vraie vie des entreprises vécues par les salariés. La vraie vie, c'est quoi ? On disait, c'est exclusif, ça ne concerne pas les PSE. Moi, je dis, et Pinky était bien l'exemple, ça peut cacher un PSE, puisqu'on n'a pas à justifier de difficultés économiques, même si elles
Pinky
existent.
Pinky est un contre-exemple, c'est la raison pas, pour laquelle
on
ils ont
pas
retiré
à justifier
leur accord.
Non, la raison pour laquelle ils ont retiré leur accord, c'est le fait qu'il n'y avait pas de majorité pour cet accord.
Il n'y avait pas de majorité.
Mais ils ont vite compris, les syndicats, ce n'est pas des girouettes. Donc voilà. Donc ces fameuses ruptures, ces fameuses RCC, elles exonèrent, je veux dire, donc de prouver une existence de difficultés économiques. Donc du coup, ça exonère aussi du recours à l'expertise sur la situation. La directe ne jugera pas de la situation de l'entreprise. Elle va principalement juger, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas de licenciement à côté ? Est-ce que la procédure a été respectée ? Est-ce qu'elle est le contingent de seniors qui s'est déclaré volontaire ? Elle va regarder ça, la directe.
Alors,
elle ne va pas regarder la finalité elle va pas juger de la finalité de l'opportunité. Elle a pas à faire un jugement sur est-ce que c'est bien fondé ou pas, sur le bien fondé de la RCC. En aucune manière.
Mais qu'est-ce qui ferait, qu'est-ce qui ferait Fabrice Angéhi que des syndicats pourraient accepter dans une entreprise un tel dispositif s'ils font l'analyse qu'il s'agit d'un plan de sauvegarde de l'emploi déguisé?
Tout à fait, je vais être très concret. C'est ce qui fait que les syndicats peuvent accepter. C'est la même raison qu'il avait été accepté à l'époque, hein, sans que cette valeur juridique, à Smart par exemple, de travailler par référendum d'entreprise, donc 37 heures. Payer 35. Voilà. Ce qui fait, c'est...
Vous n'avez pas le choix, quoi, en gros, c'est ça?
C'est ça, effectivement. C'est que vous avez des négociations sous la menace et la contrainte de... Oui, vous l'avez dit vous-même, sur l'adaptabilité des entreprises. On va vous mettre en avant. Si on ne le fait pas, demain, on va devoir faire un PSE, on va devoir licencier. C'est cette menace et ce chantage à l'emploi qui fait qu'après tout, on va dire, bon, moindre mal... Mais comme l'a dit devant, on va accepter des départs volontaires, d'autant plus qu'il y a des moyens financiers derrière, ou des moyens de reclassement. Comme ça, on évitera un PSE. Mais dans des réalités, on a eu des départs volontaires qui n'ont pas empêché des PSE, et qui n'ont pas empêché la fermeture et les délocalisations d'entreprises.
Alors Arnaud Mias et ensuite Déborah David.
Oui, il y a un certain paradoxe peut-être dans ce dispositif, c'est-à-dire qu'on insiste beaucoup sur la négociation collective, sur le fait qu'il y ait une procédure de négociation collective qui effectivement joue le rôle d'un garde-fou, mais en même temps, qu'est-ce qu'on négocie, quoi ? Ce qu'on négocie, c'est les compensations, l'accompagnement des salariés, mais on ne discute pas des choix de gestion en matière d'emploi. Et ça, c'est une évolution aussi qui est... là, accompagné par le droit, mais qu'on avait perçu dans une étude qu'on avait réalisée en 2014 dans un certain nombre d'entreprises, le sentiment qu'ont les délégués syndicaux, mais aussi les représentants du personnel dans le comité d'entreprise ou dans les comités d'établissement, c'est que depuis plusieurs années aujourd'hui, quel que soit le type d'entreprise, la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, etc., il y a le sentiment qu'il n'y a plus beaucoup de prise pour les représentants du personnel, dans la discussion des choix en matière de gestion, des choix en matière d'emploi. Et ce dispositif-là ne vient pas bouleverser les choses de ce point de vue-là.
Est-ce que ces choix, justement, sur la manière de gérer les entreprises, il est davantage défendu dans le cadre des plans sociaux classiques que sont les PSE, Arnaud Mias ?
On discute de la rationalité économique du choix qui est fait, de la décision qui est prise. C'est moins un accompagnement d'une décision prise déjà par les...
Ça prend plus de temps parce qu'effectivement, il y a cette phase d'expertise au demeurant pour voir s'il y a bien une réalité à ces difficultés économiques, même si aujourd'hui, les ordonnances, elles modifient les critères. Donc, ça part de là. Et moi, je rappelle là aussi, ça évite un PSE. À part qu'on peut avoir des situations déguisées qui, au final, pour le salarié et collectivement, sont moins porteuses de droits et de garanties en termes d'indemnisation chômage, d'accompagnement renforcé. Voilà, donc
non, c'est pas vrai. L'accompagnement est identique
Déborah
dans
David,
le cadre
alors.
D'une rupture conventionnelle collective et dans le cadre d'un PSE. Vous savez très bien que les ordonnances font l'objet d'un projet de loi de ratification et que les parlementaires ont ajouté aux mesures qui doivent être incluses.
Lesquelles de parlementaires ? C'est pas la version définitive.
Oui, d'accord. Mais enfin, c'est quand même assez... L'Assemblée nationale a déjà voté ce projet de loi. Effectivement, ça passe au Sénat, mais enfin, je suis pas sûre que le Sénat revienne là-dessus. Et donc, les ruptures conventionnelles collectives devraient être accompagnées par justement un ajout qui est la nécessité de prévoir dans un tel accord des mesures d'accompagnement des salariés pour qu'ils retrouvent un emploi derrière. Et d'ailleurs, la directe doit s'assurer que ces mesures qui sont prévues dans le cadre de cet accord collectif soient cohérentes et aboutissent bien à l'objectif qui est le reclassement des salariés.
Elles ne sont pas de la même teneur qu'un contrat de sécurisation professionnelle, ces mesures-là. Elles ne sont pas définies.
C'est mieux. Enfin,
oui,
pardon,
c'est mieux,
mais
vous
moi,
avez
pour
raison,
moi,
c'est mieux.
C'est beaucoup mieux.
Mieux,
parce que quand on n'est pas dans des difficultés économiques, on a quand même la possibilité en tant qu'entreprise de proposer des mesures d'accompagnement beaucoup plus importantes financièrement que lorsqu'on est devant un mur et qu'on n'a pas les moyens de payer ces mesures d'accompagnement. Donc après, c'est aussi dans le cadre de la négociation que ces mesures vont être plus ou moins importantes. Enfin, reprenez le cas de PSA.
Oui.
On parle de congés de reclassement, on parle d'accompagnement à la création de l'entreprise, on parle d'un passeport de transition professionnelle qui est un dispositif qui consiste consiste à délivrer aux collaborateurs qui partent dans le cadre d'un départ volontaire une formation certifiante ou diplômante qui est financée par PSA en vue d'une embauche dans une entreprise partenaire. Et si le salarié, au bout du compte, n'est pas recruté, eh bien, il a la possibilité de revenir chez PSA. Enfin, je veux dire, dans une entreprise qui doit procéder à un PSE, on ne voit pas ce type de mesures d'accompagnement.
Donc, et ces mesures ailleurs, que vous dites, vous, il y a un mieux-disant sur le sujet. Juste avant de revenir vers vous, Déborah David, je voudrais avoir quand même le commentaire de Fabrice.
Oui, sur ces mesures, sur les qualifications, etc. Moi, j'attire attention sur les relations, on l'a vu avec PSA, donneur d'ordre sous-traitant. On va permettre la mobilité donc de salariés chez les sous-traitants principalement. Ça va faire quoi ? Aujourd'hui, on connaît bien donc la pression qu'exercent les entreprises donneurs d'ordre sur les sous-traitants. Les difficultés, on les reporte. Les contraintes de gestion, on les reporte sur les sous-traitants. On a eu des exemples récemment. Deuxièmement, LOSC, parce que PSA...
Mais le salarié a la possibilité de revenir.
Aujourd'hui, on a des mobilités... Oui. Ben, on va parler du retour, justement. C'est là-dessus que je voulais venir. Aujourd'hui, y compris, on a des mobilités donc, internes à travers le plan de PSA renforcées sur l'Île-de-France. Et lorsqu'on sait également, puisque c'est annoncé par la direction de PSA, qu'on va fermer un certain nombre de sites en Île-de-France. Moi, il faut qu'on m'explique, lorsqu'on va fermer des sites, que ce soit de production ou autre, parce qu'il n'y a aussi pas que la production derrière, il y a des recherches, etc., ce qui est un non-sens économique de supprimer des emplois dans la recherche et développement. Donc, lorsqu'on va supprimer des sites, dites-moi comment le salarié qui part d'un site va revenir sur ce même site ou sur un emploi de qualification équivalente.
Cette hypothèse, elle existe bien, Déborah David, puisque, j'en crois ce que vous avez écrit, un texte que vous avez co-signé pour la revue Fiduciaire, je crois que c'était fin décembre, oui. Vous disiez notamment ceci, il ne nous semble pas concevable que la rupture conventionnelle collective aboutisse à supprimer l'ensemble des postes appartenant à une catégorie professionnelle ou encore l'ensemble des postes d'un atelier. Dans un tel cas, la RCC s'apparenterait à un PSE déguisé puisque les salariés n'auraient alors plus le choix entre partir ou rester. Ça veut
exactement
bien dire que cette hypothèse, vous l'avez envisagée et
bien
donc,
sûr,
si vous l'avez envisagée comme juriste, c'est qu'elle est possible.
Elle est possible, oui et non. Parce que ce que je dis aussi, c'est que justement, la directe est là aussi pour vérifier que les conditions de la rupture conventionnelle collective ne sont pas dévoyées. Et les conditions, je le rappelle, c'est que cet accord doit être exclusif de tout licenciement. Donc effectivement, si vous fermez un site ou vous fermez un atelier, vous ne mettez pas en place une RCC. Pimki s'y est essayé. Je pense que leurs juristes ont dû leur dire que ce n'était pas possible. Parce qu'à ce moment-là, on est dans le champ d'application d'un PSE. Je voudrais revenir juste sur un point, puisqu'on fait la différence entre un PSE et une RCC. Moi, il va falloir qu'on m'explique en quoi il est préférable de passer par un PSE que par une RCC lorsque on doit réorganiser l'entreprise. Parce que je rappelle quand même que dans le cadre d'un PSE, les salariés qui sont visés par le plan partent de façon contrainte. Donc, des salariés qui n'ont peut-être pas d'autre choix et qui n'ont pas d'autres projets professionnels, là, n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, alors que dans la RCC, le départ des salariés repose sur le volontariat. C'est quand même pas neutre, juridiquement parlant, et socialement, c'est quand même beaucoup plus acceptable de considérer qu'un salarié va prendre le choix, va faire le choix de sortir de l'entreprise, et qu'on ne dise pas qu'ils subissent des pressions, et que en réalité, les salariés vont se sacrifier en partant de l'entreprise pour sauver l'entreprise, parce qu'une fois qu'ils ont partie de l'entreprise, bah, c'est fini, quoi. Il n'y a plus de lien.
Arnaud Mias, sur le niveau de conflictualité que peut engendrer ou pas la diffusion justement de ce nouveau dispositif, est-ce qu'on peut dire que ça fait aussi partie justement peut-être de la philosophie de la rupture conventionnelle collective, c'est-à-dire d'aller vers de moins en moins de conflictualité,
de pacification,
voilà, de pacification. Et est-ce que c'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut observer justement sur un temps, si ce n'est long, mais en tout cas
c'est très difficile pour moi de prédire la suite. Ça dépendra aussi de la capacité de mobilisation d'organisations syndicales. Disons, ce qu'on observe, c'est quand même que les derniers chiffres en matière de, je vais être un peu technique, de journées individuelles non travaillées pour fait de grève. C'est l'indicateur, un indicateur qui est utilisé pour mesurer le degré de conflictualité. La conflictualité en France n'a jamais été aussi basse depuis qu'on la mesure, en fait. En 2015, les derniers chiffres datent de 2015, on est à un peu plus de 60 journées individuelles pour 1000 salariés. sur une année. Donc la conflictualité est déjà très faible. Ce qu'on observait aussi, c'est que pendant la crise, la crise de 2008, on aurait pu s'attendre à un regain de conflictualité lié aux questions d'emploi. Ça ne ressort pas des motifs. C'est-à-dire qu'on voit que la part des motifs d'engagement dans un conflit collectif dans les entreprises, l'emploi est resté relativement stable dans les motifs. Et c'est plutôt les conditions de travail qui sont montées en puissance dans ces motifs de conflit. Donc de ce point de vue-là, difficile de prédire, mais on voit quand même qu'on est quand même dans une phase d'une certaine atonie du point de vue de ce qu'on pourrait appeler les conflits collectifs au sens des grèves. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de conflictualité dans le travail. La conflictualité prend d'autres formes. Elle prend des formes plus courtes aussi, des arrêts de travail beaucoup plus courts, de type de débrayage, etc.
Il y a d'autres formes de résistance. Peut-être qu'elle est plus individualisée
aussi. Peut-être aussi plus individualisée, une forme de conflictualité
différente aussi.
Fabrice Anger.
Oui, moi je partage en partie ce qu'il vient de dire sur comment mesurer la conflictualité. On n'a pas les mêmes critères. Effectivement, si on le prend, donc, il peut me voir bien que ça date en 2015, hein, donc de journées pour travail non fait. Effectivement, donc on n'est plus sur les mêmes modalités. Aujourd'hui, de par la précarisation de l'emploi, par le demande du temps partiel, etc., on est sur des modalités de. Eh bien, on fait grève en prenant des RTT. C'est ça aussi dans une entreprise pour pas se faire remarquer en posant des jours de congé. Donc du coup, on n'a pas le même indicateur de mesure. Nous, on le voit, on n'a pas une conflictualité, lorsque je prends en termes de conflit et non pas de modalité d'indicateur qui diminue. Et je partage aussi que c'est pas le seul sujet, que les sujets de conditions de travail, les sujets de salaire, mais tout est un peu lié, donc sont des sujets des sujets d'affrontement. Et puis là, on peut avoir des luttes sans qu'il y ait grève. Ce qui se passe chez Penky, c'est bien une lutte qui a pris fin avant qu'elle ne débute, mais il y a eu bien expression de rapport de force, il y a eu bien expression des syndicats, de la CGT notamment, sur le refus de la mise en place de ce CRCC.
Déborah David.
Non, moi je pense qu'avec les ordonnances travail et notamment ces nouveaux outils d'anticipation, en réalité, on change de modèle social. Auparavant, on était effectivement sur un modèle très conflictuel où vous aviez d'un côté le patron qui prend les décisions et qui est limite le patron voyou, et de l'autre côté, les salariés qui subissent. Aujourd'hui, on voit bien, rien ne peut se passer en termes de gestion d'entreprise aussi. Et c'est là où je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que vous disiez concernant l'absence d'implication des syndicats dans la gestion d'entreprise. La gestion de l'entreprise, finalement, et la mise en œuvre de ces outils d'adaptation, elle ne passe que par le consensus. Il faut un accord majoritaire avec les syndicats, il faut que les syndicats adhèrent au projet en termes notamment de réorganisation d'adaptation pour que ça puisse être mis en œuvre. S'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'adaptation.
Mais vous pouvez dire aux syndicats, s'il n'y a pas d'accord sur la RCC, eh ben vous aurez un plan social.
Oui, non, mais il faut arrêter de penser que tous les employeurs font du chantage aux syndicats.
Il ne s'agit pas de dire que tous les employeurs le font, mais il s'agit de dire qu'il y en a peut-être qui peuvent le faire.
Oui, alors ceux qui le font en général, c'est parce qu'ils ont des vraies difficultés économiques à faire valoir. Aujourd'hui, les difficultés économiques, elles sont très clairement définies dans le Code du travail sur la démonstration de tels motifs qui peuvent aboutir à des licenciements pour motifs économiques. Les entreprises ne vont pas menacer en l'air de dire si on ne s'adapte pas, on va mourir. Et donc, oui, il y a peut-être un enjeu aussi.
C'est un peu ce que vous disiez.
Effectivement,
il faut
s'adapter justement pour répondre à la concurrence, pour rester compétitif sur un marché qui n'est pas seulement français, qui est mondial. Et les entreprises ont besoin de cette souplesse.
Fabrice Angéi, pourquoi est-ce que ce nouveau dispositif, donc la RCC, ne pourrait pas être utilisé aussi pour les syndicats, finalement, pour aussi en faire un moyen de pression, c'est-à-dire d'aller vers les directions d'entreprise en leur disant bah, écoutez, d'accord, on veut bien utiliser ce dispositif, mais sous telles conditions, c'est-à-dire on veut telle garantie, tel niveau d'indemnité pour les personnes qui vont accepter de partir, tel type d'accompagnement. Ça peut être aussi un instrument utilisé et utilisable par les syndicats.
Alors si je peux être un petit peu brut de décoffrage caricatural, du moins nous concernant, le syndicalisme, c'est pas la prime à la valise, je caricature en disant ça, c'est le souci du collectif du travail. Pour une entreprise, avant tout, un collectif de travail, c'est la pérennité, c'est la stabilité, c'est le progrès social, c'est donc avancer en droit dans l'entreprise. Donc effectivement, dans cette mesure-là, c'est pas une mesure qui contribue à ce progrès, c'est une mesure qui contribue à flexibiliser, qui va induire, on a peu parlé, mettons le pari, ça va être appliqué à des changements de structuration et pas que d'organisation, de structuration des emplois dans l'entreprise, de la qualité. Et en clair, donc, ce que je disais en termes de CDD, de CDI, de contrat en alternance, on va avoir une modification de la structuration pour aller vers plus de précarisation. Et c'est le but un peu de tout ce qu'on met en place, puisque c'est qu'un élément effectivement du pulse des ordonnances. Et on parlait de l'intervention des salariés, de leurs représentants dans la gestion. Moi, qu'on m'explique pourquoi les ordonnances n'ont pas développé l'intervention des administrateurs au sein des groupes. Qu'on m'explique aussi pourquoi on n'a pas doté les conseils socio-économiques de droits de veto sur le licenciement, justement. Pourquoi on n'a pas doté aussi ce même représentant d'un pouvoir d'information et de discussion des aides publiques versées aux entreprises. Là, oui, on change de modèle. Là, oui, on change de modèle social et de relations, et on est bien sur l'implication des salariés à l'entreprise, et pas sur aujourd'hui, on est tous sur un bien commun, etc.
Il ne peut y avoir de pérennité des emplois que s'il y a pérennité des entreprises.
Aujourd'hui, on est sur une financiarisation des entreprises. Voilà, le monde d'aujourd'hui, c'est la financiarisation des entreprises. Et oui,
c'est encore,
non, c'est pas du tout caricatural. On est bien sur une financiarisation d'entreprise. PSA le montre pour faire remonter l'action au bénéfice, donc, des actionnaires et du capital. Mais regardez de manière macroéconomique, pas du tout. Regardez la part dans la richesse créée qui va aujourd'hui aux entreprises, au capital. Et celle qui va aux salariés, à tel point qu'un dossier qui s'ouvre aujourd'hui, c'est la relance de la participation, de l'intéressement pour équilibrer cette valeur ajoutée qu'on devrait faire par les salaires et non pas par l'intéressement de la participation.
Non, mais pardon, mais ces discours sont complètement datés.
C'est pas du tout daté, ce sont des chiffres.
C'est complètement daté.
Ce sont les chiffres actuels.
Il faut arrêter la lutte des classes, il y a des entreprises quand même qui survivent.
Vous savez, la lutte des classes, elle est plus que jamais d'actualité.
En même temps, s'il vous plaît. Si
on ne donne pas la possibilité aux entreprises de survivre, elles ne pourront pas créer d'emplois et elles ne pourront pas pérenniser les emplois.
Arnaud Mias, sur cette idée d'un changement, en tout cas de modèle social.
Qu'il aille dans un sens ou dans l'autre, je doute qu'il y ait un véritable changement de modèle, d'un modèle social. Je pense qu'il faut aussi avoir en tête quand même la très grande diversité des entreprises, du point de vue aussi des pratiques de négociation collective. Parce qu'on l'a dit, c'est un dispositif qui repose principalement sur la négociation collective, c'est-à-dire on voit l'intérêt de l'entreprise aller vers ce dispositif, mais ensuite il faut trouver l'intérêt des salariés ou du collectif de travail pour aboutir à un accord majoritaire. Et de ce point de vue-là, il y a quand même une grande diversité d'entreprises. Ce qu'on constate, c'est que certes aujourd'hui, on n'a jamais signé autant d'accords dans les entreprises françaises, depuis plusieurs années, mais en même temps, ces accords, ils sont signés dans les mêmes entreprises. C'est-à-dire que la part des entreprises qui signent des accords évolue peu. C'est-à-dire que ce sont les mêmes grandes entreprises, celles qui sont effectivement porteuses d'un certain modèle social, qui correspondent bien à la logique de ces ordonnances, de procédures négociées, qui vont s'emparer de ces dispositifs. Derrière, il y a une grande masse d'entreprises. Je ne parle pas des petites entreprises, même en considérant des entreprises de taille plus importante. Une grande part des entreprises qui n'ont jusque-là pas mobilisé les dispositifs publics qui étaient mis en place et qui ne feront pas plus avec la RCC.
Donc sans faire de prévisions, comme vous le disiez au début, Arnaud Mias, on peut en tout cas supposer que c'est plutôt dans les entreprises où le niveau du dialogue social est bon, que ce dispositif-là aura éventuellement vocation à être utilisé, que là où c'est compliqué, de toute manière, étant donné les modalités, ça sera beaucoup plus difficile.
Oui, juste en corrigeant un élément, c'est-à-dire que dire qu'on signe beaucoup d'accords, ça ne veut pas dire qu'il y a un bon niveau de dialogue social. C'est-à-dire qu'on peut aussi, il y a aussi tout un ensemble, toute une part d'accords qui sont aussi des accords qui correspondent à des obligations légales à des incitations financières qui font que les entreprises sont très fortement incitées à aboutir à un accord sans qu'il y ait une véritable négociation, enfin sans qu'on puisse insister sur la qualité du dialogue social. Je veux pas tenir là un discours général, mais voilà, il faut aussi relativiser.
Déborah David.
Les ordonnances viennent d'entrer en vigueur, laissons-leur le bénéfice du doute. Moi, je suis convaincue que ça va favoriser le dialogue social en entreprise, parce qu'encore une fois, les entreprises ne pourront s'en saisir qu'à la condition d'aboutir à des accords. Et du coup, ça va favoriser, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, le dialogue social et le consensus au sein de l'entreprise.
Laissons-leur le bénéfice du doute, nous dit Déborah David. Fabrice Angély, vous pourriez dire quoi ? Laissons-les ne pas être utilisés ?
On peut dire ça, moi je pense, voyez, on peut dire ça, mais moi j'ai deux exemples. Première mesure, rupture, donc les ruptures conventionnelles collectives avec beaucoup de suppression d'emplois et pas de création. Deuxièmement, sur un dialogue social de qualité et favoriser le dialogue social d'entreprise. On a vu ce que ça donne avec les transporteurs routiers, on a vu ce que ça donne avec les salariés du portuaire qui se sont battus pour que la négociation se fasse au niveau de la branche et pas de l'entreprise, parce qu'effectivement, dans le contexte du tissu économique, il faut des droits et des garanties collectives pour l'ensemble des salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise dans ce pays.
Eh bien, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Arnaud Mias, Fabrice Sangéi et Déborah David. Cette discussion que vous pouvez réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez sur notre site franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Vous pouvez également nous suivre tous les soirs sur notre fil Twitter et nous écrire. Il faut aller là aussi sur le site. Vous verrez le petit onglet qui sert à ça. Merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richet, Leïla Saïdi, Virginie Leduo, Antoine Dulster, émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan. Demain, dans Du Grain à Moudre, la présidentielle russe est-elle une élection sans enjeu? A priori, oui, mais il faut se méfier toujours des a priori, c'est ce qu'on verra. Donc demain.